Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Au menu du débat de ce soir, une question centrale, celle de l'analyse qu'il convient d'appliquer au terrorisme. Est-ce un problème de religion, un problème social, un problème politique, un problème historique? Les spécialistes du sujet se livrent depuis plusieurs mois une guerre fratricide sur le sujet. Deux d'entre eux sont ce soir sur RFI. On les remercie pour en parler, pour exposer leurs divergences d'analyse, peut-être aussi leurs points d'accord. Gilles Kepel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, dans lequel vous vous livrez à une analyse de la période tourmentée que traverse notre région, pas seulement la France. Cet ouvrage s'intitule La Fracture. Il a été publié aux éditions Gallimard. Deuxième invité, François Burga, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, l'IREMAM, qui est basé à Aix-en-Provence. Vous êtes auteur de Comprendre l'islam politique, un livre paru aux éditions La Découverte. Alors, quelles sont les positions de nos deux invités? Le combat contre les causes réel du djihadisme a-t-il été confisqué en France? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Alors, paradoxalement, messieurs, j'aurais aimé commencer par ce qui vous réunit, la volonté de débattre, de proposer une lecture du phénomène djihadiste, une question qui est évidemment essentielle dans la période que nous traversons. Gilles Kepel, beaucoup de publications sur ce sujet, de vraies divergences, on va y venir. Ne faut-il pas d'abord se féliciter de la vigueur du débat sur le sujet?
Bien sûr, puisque c'est la controverse qui fait avancer les sciences humaines. On n'est pas dans les mathématiques. C'est la capacité qu'on a d'être en résonance avec la société, d'identifier ce qui, par-delà les postures des acteurs sociaux, dit quelque chose sur leur positionnement réel. C'est ça qui nous permet d'avancer. Après, tout ce qu'on dit est falsifiable. Si François Burga arrive à prouver que ce que je dis est faux, il aura gagné. Si j'arrive à prouver que ce qu'il a dit est faux, il aura gagné. C'est moi qui aurais gagné, c'est le contraire. Mais en tout cas, il aura toujours gagné. Mais en tout cas, celui qui gagne, en réalité, c'est l'honnête homme qui se pose les questions. Alors, et c'est à ça qu'on sert. C'est à nous, les universitaires, on essaie d'avancer des hypothèses, on les construit, on les fonde, on a fait du terrain, on connaît les langues, on a appris l'arabe.
Et d'ailleurs, dans vos deux livres respectifs, vous parlez beaucoup de votre expérience de terrain qui crédibilise votre démarche. François Burga, sur ce débat vigoureux qui existe depuis plusieurs mois, mais qui était déjà vrai un petit peu avant, vous avez la même analyse. Pour vous, il est sain ou il vous inquiète aussi dans la mesure où certaines idées sont très très antagonistes?
Je m'inscris de façon consensuelle, sans réserve, dans le prolongement de ce que vient de dire Gilles Kepel. Je vais rajouter quelque chose qui m'agace énormément, mais qui ne contredit absolument pas ce que Gilles vient de dire. Je déteste qu'on résume nos divergences à des querelles d'ego. Je pense que les sujets que nous abordons sont suffisamment importants pour qu'on nous fasse grâce que nous avons d'autres façons de cultiver notre ego que celle de chercher la divergence pour la divergence. Donc oui, nous ne faisons pas des mathématiques et donc la comparaison des points de vue, la comparaison des terrains, mais la comparaison des angles qu'on a pour les approcher est essentielle pour faire avancer notre connaissance.
Alors justement, venons-en à vos positions respectives. Gilles Kepel, je voulais partir de votre livre. Vous y parlez d'un débat, je vous cite, otage d'enjeux identitaires, communautaires, politiciens aussi, qui empêche l'émergence d'une réflexion dépassionnée sur le djihadisme. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Que on est dans une situation inédite. Il y a eu 239 morts en France entre Charlie Hebdo, 7 janvier 2015, et l'assassinat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-de-Rouvray, 26 juillet 2016. Ce qui est énorme. Ça ne s'est jamais produit sur le territoire français avec cette ampleur. Le 13 novembre, qu'on a commémoré ce dimanche, dans une retenue extraordinaire, mais qui en même temps occultait un peu le véritable débat. 130 morts sur le territoire français, 130 civils morts, ça ne s'était jamais produit depuis Oradour-sur-Glane. Pour retrouver un chiffre supérieur, il faut remonter à l'occupation. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme. Et François a raison, on n'a rien à faire, c'est pas un enjeu d'ego. Donc il faut essayer de comprendre ce qui se produit dans le pays. Ce qui se produit, c'est bien sûr lié à la fois à des enjeux qui sont propres à la mouvance djihadiste elle-même. Il faut essayer de comprendre comment elle fonctionne, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle frappe l'Europe, pourquoi elle frappe la France, bien sûr. Donc, on étudie l'objet, mais en même temps, on doit comprendre le contexte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans un pays comme le nôtre, où 40% de la jeunesse dans les quartiers populaires est au chômage, où tout le rapport à l'Empire, à ce qui était l'histoire de la France, ce qu'il a construit aujourd'hui, nous sommes peut-être les enfants mythiques de nos ancêtres les Gaulois, mais nous sommes aussi les enfants de nos ancêtres les Berbères et de nos ancêtres les Wolofs. Tout ça n'a pas été pensé. Je vous rappelle que Mohamed Merah, le premier qui met en œuvre ce que j'appelle le djihadisme de troisième génération, tue les enfants juifs de l'école Ozar Hatorah à Toulouse le 19 mars 2012, 50 ans, jour pour jour, après le cessez-le-feu, la mise en œuvre du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Et les municipalités Front National débaptisent toutes les rues du 19 mars 62, parce qu'elles considèrent que c'est une trahison nationale. Donc,
mais
on est dans un contexte.
Qu'est-ce que vous entendez par ces débats dépassionnés qui sont impossibles à mener selon vous?
Parce que la classe politique nous contraint, et on le voit, puisqu'on est maintenant dans la logique de l'élection présidentielle, à construire une vision clivante et qui exclut l'autre de la société française. Une partie des candidats qui se sont exprimés lors de la primaire de droite ont montré du doigt les musulmans en disant que, soupçonnant de pas être vraiment français, d'être tous communautaristes, etc. Et pour récupérer les voix communautaristes, les voix identitaires. Les mêmes d'ailleurs font parfois des deals dans leur quartier avec salafistes ou autres pour gérer la paix sociale. Et de l'en face, vous avez un mouvement de structuration communautaire qui monte, qui se regarde en chien de faïence, si vous voulez, avec les groupes identitaires d'extrême droite français. Et je trouve que si on continue dans cette logique de fracture, de fracturation de la société,
d'où le titre de votre livre,
exactement, on est mal. Donc, il me semble que le débat doit être passionné, passionnant certainement, mais essayer d'apporter du matériau fondé sur la réalité. Alors, François Burgat le fait à sa manière, je le fais à ma manière,
alors justement, on n'est pas d'accord. Mais la manière de François Burgat, dans votre dernier ouvrage de Comprendre l'islam politique, vous analysez, alors vous me dites si je me trompe, j'ai essayé de synthétiser, l'émergence d'un islam politique et de sa prolongation terroriste éventuelle à la lumière de la colonisation. Est-ce que ça veut dire pour vous que l'islam politique, c'est une revanche sur l'histoire? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre?
Oui, c'est une expression, je dirais, sinon revanche, au moins réaction. Je dirais qu'il est impossible de raisonner efficacement sur le phénomène qui nous réunit ce soir si on le sort de la temporalité, de la colonisation et de la décolonisation. Et moi, je veux, comme Gilles, apporter les données factuelles sur lesquelles on construit nos perceptions réciproques. Il a évoqué 239 morts. Je veux continuer sur cette lancée tragique. Simplement, je vais en convoquer un petit peu plus. Pour moi, la réaction que nous avons eue depuis le 11 septembre pour nous prémunir de faits de terrorisme sur nos territoires respectifs, la France et nos alliés occidentaux, elle a fait entre 1,2 million et 2,4 millions de morts. Si ces 2 millions de morts ne sont pas convoqués pour construire notre réflexion...
Alors, vous parlez desquels exactement, pour que ce soit bien concret pour nos auditeurs?
De la totalité des victimes de cette guerre qu'on a appelée la guerre contre la terreur, lancée par le carpet bombing sur l'Afghanistan, et puis après les drones sur le Yémen, et puis après l'irruption en Irak, etc., etc. Cette guerre contre la terreur initiée par l'administration Bush et à laquelle nous nous sommes, avec des hauts et des bas, associés, elle a fait ce chiffre-là de victimes. Si ce chiffre n'est pas convoqué pour asseoir nos réflexions respectives, je crains qu'il nous manque un petit élément de chronologie. Alors, après, pour continuer la construction de ma réponse, moi, je suis tout à fait, Gilles Kepel, lorsqu'il entend nous mobiliser unanimement contre Baghdadi, contre l'extrême inacceptable.
Donc, le calife autoproclamé.
Inacceptable de l'expression de l'islam radical. Ce qui m'inquiète, c'est quand je vois ce déchaînement d'insinuations et d'agressions contre les journalistes du Bondi Blog, ou contre le CCIF, ou contre Tarek Ramadan. Là, je comprends plus, parce que...
Oui, parce que j'allais dire que sur ces premières réponses, on peut trouver une forme de convergence dans ce que vous dites. Pour rebondir sur ce que vient de dire François Burgat, Gilles Kepel, c'est vrai que dans votre livre, vous vous en prenez à ce que vous appelez les islamo-gauchistes, à des intellectuels tétanisés par la culpabilité post-coloniale, devenus, selon vous, hein, je vous cite, les idiots utiles de la lutte contre l'islamophobie. Il y a une certaine colère dans votre livre. Elle correspond à quoi exactement? Enfin, vous parlez de qui? Et est-ce que, alors, est-ce que vous parlez de François Burgat?
Est-ce que je parle de François Burgat? C'est pas le pire, c'est pas le pire. Puisque, justement, on peut débattre. Je reviens sur ce que François vient de dire. Qu'il y ait... Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de faire une comptabilité macabre. C'est-à-dire, d'abord, la guerre contre la terreur de George Bush. La France n'y a pas participé, que je sache. Et Jacques Chirac s'est tenu très à l'écart de celle-ci. Et la société française dans son ensemble n'a pas marché dans cette affaire. Donc, je ne vois pas en quoi, en tant que citoyen français, si j'ose dire, on est vraiment concerné. Maintenant...
Mais alors, sur cet islamo-gauchisme, parce que...
J'arrive. Oui. Mais il faut reprendre petit à petit.
Oui, mais c'est que le temps passe et je voudrais que vous puissiez vous exprimer.
Bien sûr. L'autre problème, c'est que si on compte les morts, quels sont les bons morts ou les mauvais morts? Alors, est-ce que quand des chiites tuent des sunnites, ce sont de bons morts? Quand des sunnites tuent des chiites, sont morts? Je crois que malheureusement, aujourd'hui, le Moyen-Orient est entré dans une phase de chaos épouvantable. Depuis l'Occident, on a tendance, depuis l'Europe, on a tendance à croire que les musulmans vont nous envahir, vont déferler.
Oui, et c'est quelque chose qu'on répète très régulièrement sur l'antenne, les premières victimes du terrorisme sont des musulmans.
Oui, et surtout, le monde arabe aujourd'hui est dans une situation, et là j'imagine que François sera d'accord avec moi, est dans une situation d'effondrement total qu'il n'a... On a presque le même âge, il est un tout petit peu plus âgé que moi, mais ça fait 30, 40 ans qu'on traîne nos guêtres dans cette région, qu'il n'a jamais vécu, en tout cas que moi, je ne sais pas ce qu'il en est de François, mais je n'ai jamais vu une chose pareille. L'effondrement de tout, le prix du pétrole s'effondre complètement, les élites s'effondrent, les villes sont détruites, et il y a une angoisse épouvantable aujourd'hui parmi tous les gens qu'on fréquente, tous les Arabes qu'on fréquente, nos amis, les intellectuels, les autres. Ils n'ont jamais vu ça. Alors maintenant, revenons sur la question qui vous intéresse. D'abord, mon rôle, c'est pas de mobiliser contre Baghdadi. J'analyse ce que fait l'État islamique. Bon.
Oui, mais ce que vous dites, c'est que certains débats ont été confisqués
bien
en
sûr,
France
oui,
au
sûr.
Nom du communautarisme. Alors,
bien sûr, oui, tout à fait. Et j'en veux, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'affaire du Burkini.
Oui, alors sur laquelle donc, vous revenez effectivement. Mais attendez, parce que je voudrais pas. Pardon.
Non, mais c'est ça. Je réponds à votre question, mais vous pouvez.
Non, mais allez-y. Mais rapidement, il nous reste déjà plus que quelques minutes. C'est
bon,
tout.
L'affaire du Burkini. Tout d'un coup, la France, qui était victime universelle après l'attentat de Nice, 86 morts, dont je suis désolé de compter comme ça, dont 30 musulmans. Après l'attentat contre l'assassinat du père Hamel, qu'est-ce qu'on a? La France est victime universelle, et du jour au lendemain, ça devient le bourreau des musulmans, le goulag de l'islamophobie, dont la laïcité tiendrait lieu de stalinisme.
Et donc pour vous,
c'est une posture, si vous voulez. Alors on a le droit de faire ça. Le CCIF et les frères musulmans ont tout à fait le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ne tuent personne, comme le Front National. On a le droit aussi d'analyser leur fonctionnement. Ce ne sont pas des insinuations, François.
Alors, je voudrais donner la parole à Monsieur Burgat sur le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui a déposé ses recours contre l'interdiction des burkinis. Quelle est votre position? Est-ce que vous concédez que parfois, peut-être en France, il y a certaines questions qui ont été confisquées, qu'on n'a pas osé s'attaquer à certaines questions de peur d'être taxé d'islamophobie? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous entendez, ou pour vous, on est à côté de la question?
Non, on ne peut pas inverser les données factuelles. Il n'y a pas les constructeurs de la notion d'islamophobie qui mettraient en danger le communautarisme dominant. Moi, je vais employer une formule un petit peu raccourcie. Pour affaiblir les communautarisme minoritaire potentiel. Il faudrait que le communautarisme dominant, majoritaire, s'ouvre un petit peu plus et ne nourrisse pas ce processus qui fait que des citoyens en viennent à considérer que puisqu'ils ne peuvent pas être des citoyens français à part entière, ils vont devenir des Français entièrement à part. C'est ce mécanisme-là qu'il faut qu'on déconstruise. Et pour moi, les gens du CCIF, et je m'y suis rendu, sont des gens avec un gros cœur, ce sont des gens magnifiques qui mènent un combat noble. Et un des points sur lequel je ne peux pas accepter la posture de Gilles, c'est ce mot très vilain que je déteste, victimaire. Quand quelqu'un se plaint d'une souffrance quelconque, on ne regarde pas si peut-être il aurait des raisons d'être mal dans ses pompes, on dénonce sa propension à adopter une posture victimaire. Quand vous entendez le mot victimaire, examinez un petit peu les situations factuelles et vous verrez que souvent c'est une posture qui, à mon avis, envenime le débat plus qu'elle ne contribue à l'apaiser.
Alors je repose ma question d'une manière un peu différente. Et en citant Elisabeth Badinter qui avait dit dans une interview « Je ne pardonne pas à la gauche d'avoir abandonné la laïcité » qui disait elle aussi qu'il y a des questions qu'on ne pouvait pas poser en France. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous entendez ou pareil, vous ne souscrivez pas ?
Il n'y a pas de différence structurelle entre la gauche et la droite sur ce terrain-là, premièrement. Hein, j'emploie dans mon livre une formule un petit peu cruelle, mais je dis « la gauche joue à la flûte, la partition » islamophobe, je maintiens ce nom, et parfois même raciste, que la droite joue au saxo et que le Front National joue au tambour et au clairon. Il n'y a malheureusement plus de distinction significative. Alors après, je ne sais pas si j'ai le temps, mais je vous dirais ce qui me pose problème dans la posture d'Elisabeth Badinter, c'est qu'à la question suivante, peut-elle être des nôtres, celle qui ne critique pas sa religion comme les autres ? Elle répond non. Et moi, pour des raisons que l'on peut expliquer, je réponds oui.
Alors, je voudrais juste qu'on en vienne, je crois qu'on a bien compris vos divergences dans l'analyse, peut-être vous poser la question de, et alors comment on fait ? Alors, vous n'avez pas les mêmes analyses. Pour vous, Gilles Kepel, quelle est la bonne réponse à apporter à ce phénomène que vous analysez plus d'une manière, j'allais dire, en isolant plus le facteur religieux ?
Non, en fait, non. Ça, c'est une vision caricaturale du débat qui nous oppose, non pas à François, mais à Olivier Roy et moi, selon lequel Olivier Roy parlerait de la société dirait, bon, après tout, les djihadistes sont djihadistes, ils auraient... Hier, c'était la fraction armée rouge, aujourd'hui, c'est la fraction armée verte, demain, c'est la fraction armée brune, passé, musique, et tout est dans tout, réciproquement. Non, pas du tout.
Mais alors, sur la réponse, la priorité...
J'y viens. Je crois que le vrai travail, et là-dessus, je crois que François et moi, on devrait être d'accord, même si on est d'accord sur rien par ailleurs, c'est que il faut mêler à la fois la connaissance du terrain. Moi, sur la société française, ça fait 10 ans que je passe mon temps dans les quartiers. J'ai quand même écrit des milliers de pages avec mes équipes sur ces questions. Je crois que je sais à peu près de quoi je parle. Et en même temps, la lecture des textes. D'où l'importance de comprendre comment se construit l'idéologie. Qu'est-ce qui fait qu'une idéologie, à un moment, rencontre un mouvement social ou pas ? C'est ça qui est la question fondamentale. Et après, je pense que notre travail, c'est d'abord un travail d'analyse, un travail de diagnostic. Ça n'est ni Burga ni Kepel qui vont donner les solutions. On va élire un président de la République et des députés en 2017. Et ce que je voudrais faire, et j'en serais très heureux, c'est qu'aussi bien...
C'est poser
François
le débat,
moi,
finalement.
C'est poser les termes du débat et éviter ces trucs lamentables qu'on voit aujourd'hui dans la campagne présidentielle.
Et pour vous, François Burguin, en quelques secondes, est-ce qu'il y a une priorité, un combat que vous aimeriez mener qui pourrait être une bonne réponse ?
Il est moins important de comprendre, de connaître minutieusement le comment de l'expression de cette hostilité à notre égard que le pourquoi. Et on ne pose pas assez souvent la question de savoir quel est ce dérèglement du système politique qui fabrique des individus qui optent pour une expression binaire, clivante, totalisante, conflictuelle de leur appartenance religieuse.
Merci beaucoup messieurs, c'est déjà la fin de cette émission, on aurait pu faire une heure de plus, mais vous serez évidemment réinvités une prochaine fois. Merci donc à François Burga, à Gilles Kepel, merci également à Florence Pons, on se retrouve demain pour un nouveau débat.